archives de l'écologie. François Bernard.
Bonjour, merci de nous accueillir à l'écoute des archives de l'écologie, l'émission qui nous rappelle la nécessité de prendre soin de notre environnement. Un rappel indispensable alors que là, les guerres continuent d'empoisonner notre planète. Car si les conflits armés sont une calamité pour les populations qui les subissent, elles sont aussi une extraordinaire source de pollution pour l'environnement. Les métaux lourds contenus dans les bombes sont préjudiciables à la santé humaine et finissent par s'infiltrer dans les nappes phréatiques. Des écosystèmes entiers sont détruits et les combats laissent derrière eux des quantités considérables de déchets. La guerre est aussi un frein aux politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Aujourd'hui, les archives de l'écologie s'interrogent sur les armes chimiques et bactériologiques qui semblent épargner les conflits actuels, mais restent en réserve et en masse dans les arsenaux. Nous allons faire un bond de plus de 20 ans dans le passé pour entendre ce qui se disait à propos de ces armes à l'époque. C'est comme d'habitude Radio France Internationale qui a produit le reportage que nous allons entendre sur le sujet. On se retrouve dans 20 minutes pour poursuivre et conclure cette émission. A tout à l'heure.
Fréquence Terre, Arnaud Jouve.
Bonjour à tous. Dans le contexte de tensions internationales actuelles, on évoque souvent la question des armes de destruction massive. Je vous propose aujourd'hui de faire le point avec deux chercheurs français sur les armes chimiques et biologiques. Ces armes de terreur non conventionnelles, peu connues du grand public, ont pourtant été utilisées à maintes reprises, aussi bien sur des populations civiles que militaires. Ces armes, qui n'ont pas été utilisées uniquement par des États, nécessitent, au-delà des bricolages artisanaux, des techniques et des moyens importants que la plupart des grandes puissances militaires de notre monde ont développés tout en niant en posséder ou en fabriquer. Une situation préoccupante qui fait appel notamment pour les armes chimiques à des produits utilisés dans l'industrie ou dans l'agriculture et dont les champs d'application civils posent déjà des gros problèmes environnementaux et sanitaires. Des armes chimiques que connaît bien Armand Latte, professeur émérite de chimie à l'université Paul Sabatier, qui a longtemps travaillé sur les méthodes de destruction des armes chimiques et sur la décontamination des sites pollués.
Donc, j'ai dirigé pendant 4 ans un groupe de recherche qui s'appelait Décontamination chimique et environnement. C'est pour montrer le lien qui existe entre l'arme chimique et l'environnement. Et les méthodes que nous avons pour détruire l'arme chimique peuvent être transposées à la destruction des pesticides et donc à la protection de l'environnement. Voilà, alors il y a, mettons, 2500 ans à peu près, là, pour la première fois, l'arme chimique a été utilisée dans la guerre du Péloponnèse. C'était une arme qui était essentiellement peu de destruction massive. Hein. C'était des extraits de plantes que l'on mettait dans les puits. Ensuite, ceci a évolué, mais le démarrage de la guerre chimique date d'avril 1915, quand Fritz Haber a lancé une attaque contre les armées françaises algériennes, franco-algériennes, à Ypres, avec du chlore. Ça a été le début. Le chlore répandu à l'aide de plusieurs bombes, des bombes que l'on ouvrait, parce qu'il était interdit d'envoyer par des projectiles les armes chimiques, le chlore s'est répandu, 6000 bouteilles de chlore ont été ouvertes sur 6 km de front, le vent était favorable et l'armée française a été en partie décimée avec ce chlore qui empêchait les gens de respirer. L'escalade alors a commencé, les Français ont réagi bien sûr, ont fait la même chose, les Français et les Anglais. Puis les Allemands ont découvert un produit qui était déjà connu, qui était l'hyperite. C'est un produit qui est un vésican, que l'on appelle, qui rentre par la peau, c'est pas la peine de le respirer, il suffit qu'il rentre un peu par la peau pour tuer les gens. Et c'est un produit contre lequel il n'y a pas d'antidote. Entre les deux guerres, il y a eu des travaux qui ont été faits sur les pesticides, des dérivés phosphorés ont été découverts. On s'est aperçu que c'était des neurotoxiques, c'est ce qu'on appelle le taboum, le sarin, etc. Ils agissent sur une enzyme qui provoque une mort presque immédiate dans des conditions atroces, par paralysie en particulier. Donc ces substances-là ont été là aussi perfectionnées jusqu'à arriver à des produits qu'on appelle le VX ou le VXN que font les Américains et les Russes et qui sont des produits extrêmement toxiques, une grande dangerosité. La Convention internationale nous oblige à la destruction de ces armes-là et il y a un problème, c'est que le VXN russe est absolument indestructible pour l'instant. Donc il est accumulé, il faut trouver la solution pour le détruire. Ces produits sont très faciles à faire. Avec quelqu'un qui a une structure de Bac+2 en chimie, on est capable de faire ces produits-là et de les utiliser facilement. Donc, c'est des produits extrêmement dangereux. Je ne pense pas qu'on puisse imaginer que ces produits-là puissent être utilisés en camp de guerre. Ils n'ont d'ailleurs pas été utilisés pendant la guerre 39-45. Mais, par contre, c'est un danger terroriste.
« La menace d'utilisation d'armes chimiques par des organisations type terroriste ne relève pas uniquement de l'hypothèse catastrophe. Il existe malheureusement de dramatiques précédents souvent évoqués, comme cet attentat mené par une secte dans un métro japonais, armant latte.
La secte Aoun, qui est une secte philosophique subventionnée par le Japon, puisque c'est une secte religieuse et dont le Japon subventionne, avait des actions meurtrières. Et déjà avant 1995 à 1994, il y a eu quelques tentatives, mais qui étaient passées un peu inaperçues. En avril 1995, cinq terroristes qui étaient dans cinq rames de métro différentes, qui convergeaient toutes vers la station principale qui se trouve à côté de la Diète de Tokyo, avaient chacun à la main un sac en plastique rempli d'une solution de sarin. Un sarin, un gaz extrêmement toxique. Ils avaient mis ce sac à côté de la porte et avant d'arriver sur la dernière station, avec un parapluie, ils ont percé le sac, le liquide s'est répandu, eux sont sortis, les personnes qui étaient là et qui se penchaient pour savoir ce que c'était ont été immédiatement tuées. Il y en a eu une douzaine de morts à peu près, mais 3000 à 5000 blessés ensuite, parce que ce gaz se répand un peu partout et a provoqué des dégâts considérables. Le problème, c'est que pendant longtemps, on n'a pas su quelle était la nature du produit, donc les personnes qui ont été traitées au début dans les hôpitaux n'étaient pas traitées pour le produit en question, mais pour des dérivés cyanés, et ce que leur a donné n'a eu aucun effet. Donc heureusement que les chimistes qui avaient préparé ces produits avaient fait des produits qui étaient peu stables et de mauvaise qualité, parce que la dangerosité du produit varie évidemment suivant la qualité de cette substance-là. Et là, fort heureusement, le produit était de mauvaise qualité, ce qui fait que le nombre de morts a été moins important que ce que l'on pourrait craindre.
Ces armes chimiques ont été largement développées par de nombreux pays du monde et par l'ensemble des grandes puissances militaires qui ont toujours été extrêmement discrètes sur cette question. Et l'on a vu encore récemment des États qui se sont toujours défendus d'en posséder, accepter de s'engager à détruire leurs propres stocks.
Il est vrai que beaucoup de pays dans le monde possédaient ces armes chimiques. Certains l'avaient déclaré, d'autres non. La Convention d'interdiction d'armes chimiques, qui a été signée il y a quelques années, nous oblige avant 2007 à avoir détruit tous les stocks qui existent, à ne plus refaire d'armes chimiques. Et ceci avait été signé par beaucoup de pays. Les derniers qui l'ont signé, c'était les Russes et les Américains, pour des raisons économiques, bien entendu. Il y avait certains pays, je ne sais pas s'ils les ont signés depuis, le Vatican et l'Andorre, par exemple, qui n'ont pas signé. Hein. On peut moins craindre de ce côté. Là. Par contre, on craignait beaucoup de ce que les Américains appellent les rogue countries, c'est-à-dire les pays voyous, parce qu'eux ont des stocks, et la Libye tout récemment vient de déclarer, d'avouer qu'elle possédait de tels stocks et qu'elle pouvait facilement, en définitive, les livrer aux terroristes. Donc, c'est un moyen d'approvisionnement important, et la disparition de l'arme chimique de par la Convention internationale fait qu'on risque un peu moins, puisque les terroristes auront un peu plus de difficultés à se procurer ces produits-là.
C'est une arme qui est terrible, qui fait très peur, mais est-ce que c'est une arme qui peut effectivement avoir un grand pouvoir de destruction ?
Alors, il y a encore d'autres armes chimiques dont on n'a pas parlé. C'est les armes chimiques que les Américains ont utilisées au Vietnam, qui sont les défoliants. Alors, évidemment, ça semble moins grave, parce que c'est utilisé pour défolier. Mais il faut savoir que la préparation de ces substances fait qu'il y a toujours une impureté. L'impureté en question, c'est ce qu'on appelle la dioxine. Et la dioxine, vous connaissez les dégâts que peut provoquer. Les Américains ont répandu donc leurs défoliants avec en même temps la dioxine. Ils ont répandu au total des milliers de tonnes de défoliants.
Et le fameux agent orange.
Orange, parce qu'il était dans des fûts orange. Il n'était pas orange, il était dans des fûts orange. Ce fameux produit contenait donc de la dioxine, soit à peu près 170 kilos de dioxine qui ont été déversés sur l'équivalent de 3 départements français. Et la quantité qu'il y a dans le sol, c'est à peu près ce que l'on a trouvé à Seveso au moment des fameux accidents de Seveso. Donc ça a provoqué d'énormes dégâts environnementaux, d'abord parce que les arbres ont mis beaucoup de temps avant de pouvoir réagir et de se reproduire, qu'il y ait à nouveau des cultures, et ensuite parce que cette dioxine provoque pas mal de dégâts, comme on le sait, au niveau de la santé. Donc environnement détruit par cette arme chimique, oui, c'est certain. Avec le sarin et le taboun, les quantités, d'abord il faudrait qu'ils en fabriquent de très grandes quantités pour que l'environnement puisse être atteint. Ensuite, ce sont des substances que l'on peut quand même neutraliser maintenant, car nous possédons le moyen de les neutraliser, en particulier en France, on a beaucoup travaillé dans ce domaine-là. Donc environnement, surtout les agents de défoliation et tout ce qui est herbicide ou autre, ça c'est dangereux, c'est sûr. Je pense à l'heure actuelle que ces produits-là ne seront pas utilisés, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour une guerre, mais qu'elles peuvent être utilisées pour des actions de terrorisme. Alors, qui plus est, il y a une orientation aussi assez curieuse de l'arme chimique non létale. Alors, je m'explique, on pense toujours à cette fameuse arme qui, disséminée, fait qu'une personne aurait peur d'une souris. Par exemple, le chat et la souris, on se souvient tous du film de Laborie, où le chat a peur de la souris. Ces produits-là existent et pourraient être éventuellement également utilisés. Mais alors, je voudrais terminer sur une note un peu optimiste. Les Américains, se souvenant sans doute de ce que l'on faisait au Moyen-Âge, on faisait des bombes puantes, eh bien, sont en train de réfléchir à une bombe puante qui contiendrait au moins deux substances du type sui generis, c'est-à-dire des substances que nous émettons, et qui font que les gens ne resteraient pas dans un local ou dans un endroit déterminé parce que cette arme-là les ferait fuir. C'est ce qu'on peut espérer que l'on utilise comme arme.
Fréquence Terre, Arnaud Jouve.
Autre type d'arme, autre instrument de terreur évoqué lorsque l'on parle des armes de destruction massive, les fameuses armes biologiques. Des armes utilisées depuis très longtemps, comme nous l'explique un des grands spécialistes des armes biologiques en France, le docteur Jean-Pierre Gorvel, un microbiologiste directeur en facteur de virulence en biodéfense.
Ça a commencé bien avant le Moyen-Âge. On envoyait des cadavres d'animaux contaminés de l'autre côté de la barrière pour faire mourir les populations. Ensuite, on a évolué vers des couvertures remplies de variole pour faire mourir en particulier les Indiens en Amérique latine, utilisés par les Espagnols. Ensuite, on est passé à l'utilisation de pathogènes qui étaient décrits pour des épandages éventuels sur les populations. Donc ça a été peut-être utilisé, mais ça n'a plus été utilisé par les pays qui les ont fabriqués à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Donc la question, c'est pas combien de gens on va tuer, mais quels sont les facteurs qui vont permettre de tuer les gens. Et ces facteurs-là, ça s'appelle des facteurs de virulence. Et donc, il faut les identifier, les caractériser et aussi apprendre à les détruire.
Est-ce qu'on peut faire une photographie de la situation aujourd'hui ?
C'est une question qui est délicate parce qu'il y a eu des conventions qui ont été signées par plus de 30 pays pour la non-prolifération des armes biologiques. Toutefois, pourquoi c'est délicat ? Parce qu'il y a certains pays qui ont accumulé des collections et des quantités incroyables d'armes biologiques. Et donc ces collections existent toujours, n'ont pas été détruites et sont à même d'être disséminés à qui voudra les acheter ou qui voudra les utiliser pour les transformer à nouveau dans un but nocif. Alors quand même, à l'heure actuelle, il faut faire une distinction par rapport à ce qui se passait, je dirais, jusqu'aux années 90, à savoir qu'à l'heure actuelle, tous les laboratoires qui travaillent sur ces pathogènes-là le font dans des environnements qui sont confinés, protection du manipulateur. Et les pathogènes ne sortent pas de ces environnements-là. Ils sont détruits avant même de sortir de l'autoclave. Et donc, il n'y a aucune conséquence néfaste sur l'environnement. Par contre, ce qui peut être néfaste sur l'environnement, c'est effectivement les collections de pathogènes qui ont été accumulées au cours des époques de guerre froide, en particulier par l'ex-Union soviétique, et qui sont encore stockées dans des conteneurs qui pourrissent petit à petit, et dont finalement maintenant les pays de l'Ouest, je dirais, commencent à s'intéresser à ces collections, à les sécuriser, à faire pas mal de travaux dans les laboratoires pour éviter des accidents sur les populations. On pourrait imaginer un conteneur d'anthrax de spores qui, comme ça, part dans la nature et au gré des vents va tuer quelques villages sur les Balkans, par exemple. Donc il faut faire quelque chose pour sécuriser ce qui n'a pas pu être fait, je dirais, avant les années 90. Pour fabriquer une arme biologique à l'heure actuelle, c'est extrêmement facile. On peut utiliser le génome des bactéries ou des virus, les transformer et fabriquer quelque chose d'extrêmement puissant qui va pouvoir détruire en très peu de temps une quantité donnée de personnes dans un environnement donné. Fabriquer un pathogène, c'est facile. Le militariser, c'est nettement plus difficile. Si vous voulez, il y a trois étapes. Il y a la fabrication du pathogène ultra-virulent, on va l'appeler comme ça. Il y a la production et ensuite il y a la militarisation, vectorisation. Donc la fabrication, n'importe quel laboratoire de microbiologie avancée peut fabriquer des pathogènes. La production, il est évident qu'en achetant des fermenteurs adéquats, on va pouvoir multiplier le pathogène en grande quantité. C'est-à-dire, grande quantité, ça veut dire plusieurs centaines de kilos. Et la troisième étape, c'est l'étape difficile. Parce que les pathogènes, il ne faut pas oublier, sont des êtres vivants. Et en tant qu'être vivant, il faut qu'ils soient stabilisés dans des environnements qui sont très mauvais pour eux. En particulier, on peut imaginer une ogive d'un missile à fragmentation. Le pathogène, il risque d'y laisser sa peau. Et donc, c'est la stabilisation du pathogène dans des environnements peu stables ou difficiles pour le pathogène qui est l'étape limitante à l'utilisation d'armes biologiques en destruction massive.
Vous pouvez me donner un exemple pour qu'on ait un peu une illustration de ce que vous venez de nous dire?
Par exemple, on va prendre deux bactéries. La première, c'est l'anthrax. Donc, on sait que l'anthrax peut faire des spores. Et donc, les spores correspondent à quelque chose qui peut résister à des environnements très difficiles, des très secs ou de haute température ou de pression différentielle. Donc en faisant des spores, la bactérie peut s'adapter à des environnements qui sont très difficiles et la dissémination de spores par aérosol est très facile. Et lorsque la spore va rencontrer l'être humain, eh bien, il va régénérer un pathogène virulent très compétent. On va prendre une autre bactérie qui n'est pas utilisée pour le bioterrorisme et on va comprendre de suite pourquoi. Par exemple, Mycobacterium qui cause la tuberculose, qui est quand même une maladie importante dans le monde et qui tue des millions de personnes. Donc Mycobacterium se reproduit très lentement, ne peut pas former des spores. L'environnement de Mycobacterium est très sensible à son environnement, donc on ne peut pas le stabiliser. Donc Mycobacterium n'est même pas utilisé dans une classification d'un pathogène sensible pour le bioterrorisme.
Pour conclure avec Jean-Pierre Gorvel sur ces menaces biologiques ou chimiques de l'extrême folie humaine, se pose la question de la véritable puissance de ce type d'armement.
La puissance, elle est, je pense que la puissance, elle est au niveau social et psychologique sur les populations. Tout le monde sait que la peste a tué 30 ou 50% de la population européenne au Moyen-Âge et ce qui a suivi en Renaissance. Donc là, on a déjà un antécédent de destruction massive. À l'heure actuelle, les conditions d'hygiène ont fait que en santé publique, notamment dans les pays dits développés, on est à l'abri d'une dissémination à grande échelle et d'une contamination infectieuse à grande échelle. Par contre, on peut imaginer que seulement, comme ça s'est passé aux États-Unis, une lettre contenant de l'anthrax délivrée dans un ministère ou passant par tous les services de la poste, créerait une situation de peur et de psychose publique qui en fait répond à un acte qui est délibérément vu limité. Donc c'est plutôt l'onde de choc social d'une arme bactériologique qui aurait un impact important plutôt que malheureusement les quelques personnes qui pourraient en décéder.
Aurélie Tisser et Arnaud Jouve, qui ont réalisé ce Fréquence Terre sur un mixage de Thomas Ferrière, vous donnent rendez-vous la semaine prochaine pour un autre dossier sur le front de l'environnement. Bonne semaine à tous.
Voilà, reportage produit en mars 2004 qui amène à nous poser cette question. Les armes chimiques sont-elles utilisées dans les conflits actuels? La réponse est oui, mais cela reste limité. L'Ukraine fait état de leur utilisation et des organismes internationaux ont trouvé des substances toxiques dans les échantillons prélevés sur le front. C'est aussi vrai en ce qui concerne le Soudan où se poursuit une guerre civile meurtrière. Les armes chimiques sont donc utilisées, mais sous forme limitée et souvent dissimulées. Les armes biologiques, virus, bactéries, toxines, sont encore plus rares. Aucun usage n'est confirmé dans les conflits récents. Il est vrai que des conventions internationales sont en vigueur et ceux qui y contreviendraient risquent d'être condamnés et sanctionnés. Et puis les agents biologiques sont difficiles à contrôler et, on l'a entendu, peuvent se retourner contre leurs utilisateurs. Quoi qu'il en soit, chimiques, biologiques ou conventionnelles, les armes de guerre sont une source de pollution qui vient contrecarrer les efforts consentis pour mener les indispensables politiques de préservation de l'environnement. Voilà, c'est tout pour les archives de l'écologie de ce samedi. Merci de votre fidélité sur Alternante en direct sur 98.1 à Nantes, 91 à Saint-Nazaire et bien sûr en podcast sur le site alternantefm.fr. On termine en chanson bien sûr, et si la guerre n'est pas une source d'amusement, certains ont réussi à glisser une dose d'humour dans cette composante tragique du comportement humain. Exemple, cette Java de la bombe atomique, écrite et interprétée par l'inimitable Boris Vian.
Mon oncle, infâme bricoleur, faisait en amateur des bombes atomiques.
À la semaine prochaine.
Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie, question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier pour faire ses expériences. Et le soir, il rentrait chez nous et nous mettait en transe en nous racontant tout. Pour fabriquer une bombe, mes enfants, croyez-moi, c'est vraiment de la tarte. La question du détonateur se résout en un quart d'heure, c'est de celle qu'on écarte. En ce qui concerne la bombache, c'est pas beaucoup plus vache, mais une chose me tourmente, c'est que celle de ma fabrication n'ont qu'un rayon d'action de 3,50 m. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Il a bossé pendant des jours, tâchant avec amour d'améliorer le modèle. Quand il déjeunait avec nous, il dévorait d'un coup sa soupe au vermicelle. On voyait à son air féroce qu'il tombait sur un os, mais on n'osait rien dire. Et puis un soir pendant leur parle, la tonton qui soupire et qui s'écrie comme ça. À mesure que je deviens vieux, je m'en aperçois mieux, j'ai le cerveau qui flanche. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'essaye d'augmenter la portée de ma bombe. Et je ne me suis pas rendu compte que la seule chose qui compte, c'est l'endroit où ce qu'elle tombe. Il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Sachant proche le résultat, tous les grands chefs d'État lui ont rendu visite. Il les reçut et s'excusa de ce que sa cagna était aussi petite. Mais sitôt qu'ils sont tous entrés, il les a enfermés en disant « Soyez sages ». Et quand la bombe a explosé, de tous ces personnages, il n'est plus rien resté. Tonton, devant ce résultat, ne se dégonfla pas et joua les andouilles. Au tribunal, on l'a traîné et devant les jurés, le voilà qui bafouille. Messieurs, c'est un hasard affreux, mais je jure devant Dieu, comme mon âme et conscience, en détruisant tous ces tordus, je suis bien convaincu d'avoir servi la France. On était dans l'embarras, alors on le condamna et puis on l'amnistia. Et le pays reconnaissant, l'élu immédiatement chef du gouvernement.